Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, d'opinions. Vous le savez, à partir de 13h comme tous les jours, vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce vendredi 12 août qui va bien sûr être très chaud. Et justement, on commence avec vous Valérie Quintin, bonjour à vous.
Bonjour.
19 départements encore en vigilance orange, canicule cet après-midi.
Oui, ça va du Finistère aux Pyrénées en passant par la Haute-Vienne, l'Aveyron ou encore le Tarn. On a un soleil de plomb partout en France. Déjà quelques orages qui se déclenchent vers les Pyrénées. Ça concernera aussi les Cévennes et les Alpes du Sud ce soir. Et puis de gros orages sont attendus en Corse la nuit prochaine, notamment du côté ouest entre Calvi et Propriane. Partout ailleurs, simplement du soleil. Des températures qui vont de 29 degrés à Cherbourg à 40 degrés à Montauban. 31 pour Nancy, 32 à Montpellier, 34 degrés à Paris, 35 à Lyon, comme à Brest, 37 degrés à Limoges et 38 à La Rochelle.
Une chaleur qui n'aide pas sur le front des incendies. Depuis quelques heures, les pompiers français voient les renforts européens arriver, notamment en Gironde, vous l'entendrez. Nous parlerons du recrutement en crèche pour faire face au manque de personnel. Eh bien, il va être possible à la rentrée d'embaucher des salariés non diplômés. Ça fait grincer des dents. Et puis ce soir, la shortlist des dominés pour le Ballon d'Or. La question du jour, le Ballon d'Or peut-il, selon vous, échapper à Karim Benzema? Vous avez répondu oui à 50%, non à 19%. Vous pouvez continuer à réagir au 32-10, bien évidemment.
RTL Midi.
Nous voulions débuter ce journal par un petit miracle. Hier soir, à Marseille, un adolescent de 15 ans a été emporté au large par les courants et malgré un énorme dispositif, impossible de le localiser pendant plus de 5 heures. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
C'est in extremis, juste avant la tombée de la nuit, qu'il a pu être secouru.
Absolument, deux hélicoptères, deux vedettes, plusieurs zodiacs et une équipe de plongeurs, des marins-pompiers lancés dans une course contre la montre avant la tombée de la nuit. L'adolescent s'imaginait rejoindre le château d'If, la prison maritime décrite par Alexandre Dumas dans le Comte de Monte Cristo, mais qui était à plus de 3 km de nage de son point de départ. Alors épuisé, il a dérivé, s'est perdu en mer, a s'agrippé à quelques rochers quand il en avait l'occasion. 4 heures après l'alerte donnée par ses parents qui étaient restés sur la plage, le CrossMed a donc déclenché une importante flottille pour le retrouver avant la nuit. Et c'est finalement l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale qui l'a localisé peu après 21h avant qu'il ne soit repêché par une embarcation. En état d'hypothermie, ce jeune de 15 ans s'en sort finalement bien, sain et sauf. Il n'a pas eu besoin d'être hospitalisé et a rejoint sa famille, vous l'imaginez, très soulagé.
Hugo Hamelin, le correspondant de RTL à Marseille. Le pic de chaleur attendu cet après-midi, vous nous en parliez Valérie, ne va pas aider sur le front des incendies. Les renforts européens arrive au fur et à mesure pour aider les pompiers français, notamment en Gironde, où l'on retrouve notre envoyé spécial à Belin-Bélier. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Les pompiers allemands sont déjà à pied d'œuvre, Valentin.
Oui, ils sont sur le chantier, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Il y a désormais un homme en gilet bleu, floqué du drapeau de l'Union européenne. Il assure la communication en langue des ordres. Les premiers à se mettre au travail ce matin, ce sont les Allemands. 65 pompiers, 24 véhicules. Le commandant Simon Fritz vient d'arriver il y a quelques minutes avec ses hommes sur le front où les Français les intègrent au dispositif.
C'est vous qui donnez les ordres, c'est vous qui les donnez. La coordination est fondamentale. On doit faire confiance aux pompiers français pour les assister. On a été activés par le gouvernement français, nous sommes là pour vous aider. Bon, désolé, ça reprend, je dois y aller.
Alors les habitants voient défiler ce matin ces nouveaux camions avec le mot pompier écrit en roumain, en allemand, en polonais. C'est un soulagement pour François, il est bénévole et riverain de la zone.
Ma maîtrise de l'allemand est très faible, donc je pourrais pas leur dire grand chose. De toute façon, vu comment c'est parti, il faut du monde, hein, donc y a pas le choix. Hein. C'est bien qu'il y ait du monde qui vienne, c'est pas après le problème, ben, c'est que ça brûle ici, mais ça brûle partout. Les pompiers font ce qu'ils peuvent, mais bon, ils peuvent pas être partout à la fois.
Voilà, ça brûle partout, d'autant qu'il y a encore beaucoup de fumée. Actuellement, l'air est peu respirable et au bout de 3 jours, la fatigue arrive, l'air irrite les yeux, la gorge. Le feu risque aujourd'hui de dépasser la route départementale 111, un point crucial car le massif se dirige ensuite vers de nouvelles communes jusqu'ici épargnées.
Le reportage de Valentin Boisset. Merci Valentin, envoyé spécial de RTL en Gironde. Parmi les autres incendies toujours en cours depuis la nuit dernière, il y a celui de la forêt de Brocéliande. 230 hectares ont déjà été détruits à l'ouest de Rennes. Là aussi, spectacle de désolation auquel assistent impuissants les habitants, dont Florian Boulanger sur la commune de Campénéac.
On voit beaucoup de fumée, on voit pas les flammes d'ici. Après, il y a énormément de fumée. La fumée a pris énormément d'ampleur. Moi, j'ai commencé ce matin à 1h30, je voyais rien du tout. Là, ils ont bloqué des routes parce qu'on peut plus passer à cause de la fumée. Il y a eu trois ou quatre villages, si je dis pas de bêtises, d'évacués. Ça équivaut à une centaine de personnes évacuées. Pour la première fois, je viens de voir un Canadair passer au-dessus de la commune et puis plein de camions de pompiers qui passent. C'est vrai que ça fait une scène un peu de chaos. On sait pas trop quoi faire. On veut aider et on sait pas trop comment faire. C'est vrai que c'est impressionnant.
Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Carrefour, Orange, EDF, GRDF, plusieurs grands groupes se sont organisés pour libérer leurs employés, pompiers volontaires. C'était une demande de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, auquel des retraités demandent une dérogation. Des pompiers volontaires, là aussi, qui ont arrêté les interventions il y a quelques mois et qui se sentent prêts à aller aider leurs camarades sur le front des incendies. Sachant que la retraite chez les pompiers volontaires, Thomas Després, est normalement fixée à 60 ans.
Oui, mais il existe des dérogations. Si vous êtes un ancien volontaire avec encore une forme physique nécessaire, c'est très important parce que les missions sont très physiques, on le sait, vous pouvez pousser cette limite d'âge à 65 ans, 68 même si vous avez été infirmier ou vétérinaire, 70 si votre métier était pharmacien ou médecin. Pour ça, c'est très simple, il faut s'adresser à vos 10 de référence, les services départementaux d'incendie et de secours. C'est eux qui vous feront connaître leurs besoins et qui évalueront surtout votre aptitude.
Et ces anciens pompiers volontaires, Thomas, pourraient retourner sur le front des incendies comme leurs collègues plus jeunes ?
Alors en théorie, oui, même si on sait que l'engagement face aux flammes reste particulièrement éprouvant, tant sur le plan physique que psychologique. Ce qui est en revanche plus probable, c'est que ces anciens pompiers volontaires soient en fait réintégrés dans des fonctions plus logistiques, à l'arrière du front, en deuxième ligne, pour apporter une aide technique ou alimentaire par exemple, ou bien qu'ils aillent remplacer des collègues occupés par des missions plus quotidiennes sur des accidents de la route par exemple.
Merci beaucoup Thomas Després du service politique de RTL. Des incendies qui provoquent parfois la fermeture de certains axes routiers. Justement les routes, c'est une journée qui s'annonce encore très très chargée. Le pic est attendu en fin de journée, Clément Théara, mais ça commence déjà à bouchonner.
Oui, c'est compliqué tout le week-end et puis la situation est toujours critique dans le sud-ouest. La 63 est toujours fermée entre Liposté et Mios en raison des incendies. Il est possible de circuler entre Bayonne et Liposté pour les voitures. Pour les poids lourds, en revanche, il faudra être patient. Vous êtes forcé de contourner la 63 par la 64, la 65 ou la 62. Et puis sur la 7 en direction dans la vallée du Rhône, en direction de Lyon, 10 km de circulation en accordéon entre les Tourettes et Loriol-sur-Drôme. Même chose en arrivant à Valence, où la traversée de la ville est déjà difficile dans les deux sens. Mais oui, le pic est attendu à 18h en fin de journée.
Merci Clément Théra pour ce point trafic. On vous suit évidemment toute la journée. On vous informe, il n'y a pas que les humains qui souffrent de la chaleur. Les animaux aussi. Dans les parcs et autres zoos, une attention particulière leur est portée. En cas de canicule, tout est fait pour les inciter à s'hydrater. Exemple à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, Romain Biteau.
Tony, le soigneur du zoo, on monte les escaliers de la serre des orang-outans. Il faut être au-dessus de leur cage pour les nourrir. Pour ça, Tony a sa recette de la purée de banane congelée. Objectif, la fraîcheur.
Les orangs, ils adorent ça, surtout quand il fait chaud.
Donc là, Tony lance les bouts de glace sur le grillage de la cage.
Les petits hop, c'est bon, c'est-à-dire, dépêche-toi. J'ai faim.
Peut-être un peu chaud aussi, non ?
Bon, après, c'est une espèce qui vit à Bornéo, donc la chaleur, ils connaissent. C'est beaucoup plus humide, en fait, chez eux. Pour eux, la chaleur est plus supportable là-bas qu'ici, quand c'est sec.
D'autres moyens existent pour soulager les animaux, et parmi eux, les jeux d'eau. Pour Michel Saint-Jalme, directeur du zoo, rafraîchir l'espace de vie est indispensable.
Brumisons avec de l'eau de Seine, qui est aujourd'hui pas restreinte et qui permet de réduire la température dans le milieu.
De l'eau de Seine que l'on retrouve dans la piscine de Tenga, le tapir malais plus habitué à l'humidité qu'au temps sec. Thibaut, son soigneur, est convaincu que l'animal est ravi de son enclos.
Ils sont contents d'avoir quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Puis le frais, je pense que ça leur fait un petit peu de bien quand il fait chaud, c'est comme nous en fait.
Et Tenga a décidé de profiter. Entre deux siestes, il pique une tête dans sa piscine pour le plaisir des visiteurs.
Le reportage de Romain Biteau pour RTL. Permettre un recrutement plus large dans les crèches pour faire face au manque de personnel des salariés non diplômés. Eh bien, on en parle dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
RTL Midi 42. Le secteur de la petite enfance n'échappe pas à la règle. Il manque là aussi de personnel. Alors que la rentrée approche, pour parer au plus pressé, le gouvernement autorise les crèches à recruter des salariés non diplômés. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Alors vous nous dites quand même que cela va rester très encadré.
Oui, pour pouvoir embaucher des salariés sans diplôme, les conditions restent assez strictes. Un, il faut justifier du manque de bras. Les établissements doivent avoir la preuve que leur offre d'emploi est publiée depuis au moins 3 semaines sans résultat. Deux, il faut demander une dérogation officielle au département, par exemple. Trois, le candidat sans diplôme doit montrer patte blanche, entre guillemets, CV, lettre de motivation. Sachant qu'au cours des 120 premières heures de travail, ce qui correspond à 3 ou 4 semaines à temps complet, le salarié sans diplôme ne pourra pas gérer seul les enfants. Il sera encadré et supervisé par un responsable. C'est la loi qui le dit. Ce n'est qu'à la fin de son parcours d'intégration qu'il ou elle pourra s'occuper des tout-petits en crèche, on le rappelle, à titre exceptionnel, à partir du 31 août prochain.
Anaïs Bouissou du service économie et sociale de RTL. Nous sommes avec Jérôme Dumortier. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la crèche Les Souriceaux à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage On ne naît pas directeur de crèche, on le devient, aux éditions Philippe Duval. Selon vous, recruter des salariés non diplômés, bonne idée ou pas ?
Pas bonne idée du tout. Pas bonne idée du tout. Alors déjà, il faut savoir que les 120 heures, c'est pas 120 heures de formation, c'est 120 heures, ils appellent ça de parcours d'intégration pour accompagner les pratiques professionnelles. Et ces 120 heures sont suivies par, ils sont accompagnés par un voire deux professionnels d'une équipe de l'établissement présent depuis moins d'un an.
D'accord. Voilà. Sachant qu'il y a déjà un manque de personnel, on le sait, puisque visiblement c'est pour cela aussi qu'on autorise l'embauche de personnes non salariées. Mais ce sont les personnels qui vont devoir en plus former les personnes qui arrivent ?
Tout à fait, oui. Tout à fait, c'est ça. Donc déjà, les professionnels travaillent à flux tendu, avec des conditions de travail souvent difficiles. Et là, en plus de ça, ils vont devoir accompagner cette personne novice de la petite enfance. Voilà, donc c'est assez, à mon sens, catastrophique.
Anaïs Bouissou.
Et sachant qu'effectivement, il y a une crèche sur deux qui manquerait de personnel, c'est ça, selon les dernières études, pour la rentrée ?
Jérôme Dumortier ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a une étude en juillet de la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, qui dit que 48,6% des crèches déclarent un manque de personnel auprès des enfants, tout à fait.
Et comment recruter autrement, Jérôme Dumortier, puisqu'il faut recruter ?
Alors, comment recruter autrement ? Ça, c'est une bonne question, et je pense que toutes les directions se posent la question, parce que même des candidats diplômés, on reçoit même pas les candidatures.
Et pourquoi ? Alors,
peut-être parce qu'ils connaissent les conditions de travail en crèche et la valoriser, un métier qui n'est pas valorisé. Comme je disais, des conditions de travail difficiles en termes de... C'est très physique, c'est moral. Un métier qui demande de se remettre en question, de savoir gérer ses propres émotions, d'accompagner les émotions des enfants, de faire preuve de patience, d'écoute, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a les par exemple, les taux d'encadrement qui sont énormes. C'est un professionnel pour 8 enfants jeunes marcheurs et un professionnel pour 5 enfants qui marchent pas. Donc comme on peut pas rester seul avec un groupe d'enfants, on est souvent 2 pour 16 enfants. Quand il faut changer la couche d'un enfant, ce qui arrive du coup fréquemment, surtout dans un groupe de 16, il y a un professionnel qui se détache pour changer la couche de l'enfant, ce qui est normal. Mmh. Et donc ça veut dire qu'il y a un professionnel qui se retrouve avec 15 enfants jeunes marcheurs.
Jérôme Dumortier, que demandez-vous concrètement au gouvernement alors que la rentrée approche, hein, c'est dans 15 jours?
Là, je pense que c'est vraiment un travail de fond en termes de formation. Je pense qu'il y a vraiment un gros souci, je pense, au sein des formations pour vraiment connaître les réalités. Après, en termes de revalorisation de salaire, de conditions, de baisser ces taux d'encadrement, baisser ces taux d'encadrement pour que ça soit plus attrayant. Parce que on devient les EHPAD de la petite enfance. Alors déjà, il y a eu des drames, comme par exemple à Lyon. Et là, la solution qu'on nous offre, c'est embaucher des personnes novices de la petite enfance. Je pense que la réponse, elle n'est pas forcément adaptée et elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu.
On devient les EHPAD de la petite enfance. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de RTL Midi, Jérôme Dumortier. Je rappelle que vous êtes directeur de la crèche Les Souriceaux à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille.
RTL Midi.
Clotaire, Alceste, Agnan et les autres vont devoir trouver les bons mots pour consoler le petit Nicolas. Plus dommage après la mort de Sampé hier à l'âge de 89 ans. Ses descentes accompagnées et continuent à accompagner plusieurs générations. Alors on parle beaucoup du petit Nicolas, oui, mais Jean-Jacques Sampé, c'est aussi une multitude d'ouvrages, de dessins, de presse. Il a été le premier Français à être publié dans le New Yorker. Il a fait plus d'une centaine de couvertures pour le célèbre magazine. Amoureux de Paris, il avait également eu un coup de foudre, il le disait, pour La Grosse Pomme.
À l'époque, oui, c'était le rêve de tout dessinateur, un jour, d'accéder à ce temple. J'adore New York, je ne sais pas si j'aurais pu y vivre. Alors, déjà, je ne parle pas la langue, ce qui est assez délicat. Et je comprends très peu de choses quand on me parle, et quand je réponds, les gens comprennent encore moins. Mais j'adore cette ville, et puis les couleurs surtout. Et puis surtout ce mélange de races. Dans la rue, quand on voit tous ces jaunes, tous ces noirs, tous ces rouges, tous ces blancs, ces immenses baraquets, ces petits maigrichons, c'est un mélange merveilleux. On croit toujours que je dessine des gens écrasés. Je ne dessine pas des gens écrasés, je dessine des gens qui résistent. Je ne les fais pas tellement petits, les gens. Si vous mesurez en proportion la taille d'un personnage que je dessine par rapport à une maison, si vous, en proportion, vous le remettez à échelle humaine, si je puis dire, vous apercevrez que les petits personnages que je dessine mesurent, à mon avis, 3,27 m, ce qui est assez rare. L'esprit, c'est de se moquer des autres, et l'humour, c'est de se moquer aussi, et même avant tout, de soi-même. Et c'est peut-être pour ça que j'adore l'humour.
La voix de Jean-Jacques Sampé. Pour lui rendre hommage ce midi, nous sommes avec Philippe Labraud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, bien évidemment. On vous connaît très très bien à RTL. Mais ce midi, Philippe Labraud, c'est l'ami de Sampé que l'on a en ligne. Vous l'avez vu il y a encore quelques jours.
Oui, il se trouve que j'étais pratiquement son dernier visiteur parisien, puisque le lendemain matin, il partait dans un fourgon ambulance pour aller en Provence. Pour, à mon avis, terminer, il le savait, sa vie au soleil. Donc, il était 18h40 à peu près, et j'étais venu le voir comme je venais souvent, parce que c'est un vieux copain, j'ai connu Sampé il y a très très longtemps, on a échangé beaucoup ensemble, on a un peu rigolé, enfin bref, c'est un ami, et puis surtout, un homme dont j'admire, mais à 100%, le génie total, parce que c'est très bien, vous avez raison de parler du petit Nicolas, mais il y a tout le reste, il y a ses albums, il y a évidemment New Yorker, et puis il y a les albums, rien n'est simple, tout est compliqué, garder le cap, à chaque fois avec des légendes et une écriture. Il ne faut jamais oublier qu'il écrit très très bien. Ah. Bref, il était là, très fatigué, je dois dire, très très fatigué, étendu, avec un système un peu pour l'oxygéner. On a quand même pu un peu parler, il y avait toujours dans ses yeux, ce que j'ai adoré chez lui, une brillance et un sourire. C'est un homme qui ne connaissait pas la méchanceté, Jean-Jacques, même s'il avait un regard assez critique sur la vie, les mœurs et les imbécilités des uns et des autres, il avait quand même la bonté qui émanait de lui. Mmh. Et donc ce soir-là, on a parlé un peu de Duke Ellington, son idole, de tennis, il adorait le tennis. Et puis surtout, il avait un souvenir ému et attendri de sa chatte, une chatte qui était auprès de lui. Les chats et les chattes, comme vous le savez, aiment beaucoup être près des écrivains. et qui pratiquement dessinait avec lui. Et il a terminé en disant oui, elle était merveilleuse. Puis là-dessus, il a fermé les yeux, il se reposait, souriant quand même. Et je l'ai laissé comme ça, avec la certitude que malheureusement, j'aurais du mal à le revoir. Mais nous avons en souvenir et en trésor une œuvre considérable et qui, à mon avis, avec maintenant sa disparition, va prendre une dimension encore supérieure.
J'imagine que vous avez vu les nombreux hommages hein, qui ont été rendus à Sempé. C'est la première fois que j'ai la certitude que Dieu est au ciel. C'est ce qu'écrivait hier soir Johann Sfar. Est-ce qu'il était conscient, votre ami Sempé, d'être une référence, une inspiration pour une génération de dessinateurs ?
Je pense qu'il en était conscient, mais qu'il était en permanence habité par la modestie et l'humilité. D'abord, il avait eu des maîtres, Topor, Chaval, d'autres grands dessinateurs, d'une part, et d'autre part, il refusait totalement toute expression d'orgueil ou de vanité ou de contentement de soi. Je me souviens très bien d'une phrase. Un jour, on bavarde, et je regarde, je dis, écoute, franchement, t'es un génie. Et il me dit, faut pas exagérer. Et ben, c'est tout sans paix. Faut pas exagérer. D'ailleurs, ça pourrait être le titre d'un de ses albums.
En deux traits, il arrivait à tout faire passer, hein, Sempé, avec ce trait minimaliste, il englobait le moindre détail, en même temps il y avait de la tendresse, cette poésie, il ne faut pas exagérer le trait peut-être, mais alors qu'est-ce qu'on en a fait passer des choses sous cette plume ?
Ben je sais, mais vous avez raison d'employer le mot plume, parce que c'est ce que je disais il y a un instant, les légendes des dessins de Sempé sont aussi merveilleuses que les dessins eux-mêmes. Et les textes qu'il a pu laisser à droite et à gauche, il y a un album d'entretien avec lui, avec un de ses amis, je ne sais plus le prénom, je crois que c'est Jean-Marc Le Carpentier, ben, il s'exprime très très bien, Jean-Jacques. C'est un homme intelligent, cultivé, raffiné, un regard, une délicatesse, et surtout, et c'est très important, la bienveillance. Il n'attaque pas les gens, il n'attaque pas la société, même s'il la décrit parfois de façon un peu pointue et aiguë, hein. Il n'attaque pas. Il ne sait pas ce que c'est que la méchanceté.
Ça fait du bien d'évoquer Sempé avec vous, Philippe Labro. Merci infiniment d'avoir été en direct sur RTL aujourd'hui pour parler de ce génie. Vraiment, merci beaucoup. Début de la deuxième journée de Ligue 1 ce vendredi avec Nantes-Lille. Une rencontre à suivre, bien évidemment, dans RTL Foot, présentée par Eric Silvestro. Sachant qu'avant le coup d'envoi, vous allez pouvoir écouter un entretien avec le président des Dogs, Olivier Létan. Des Dogs qui ont les crocs.
Si on parle effectivement des objectifs, ce l'on veut, c'est être bon maintenant. Jouer tous les matchs pour les gagner, avec des valeurs fortes, avec un engagement très fort de nos joueurs. Vous savez, quand vous faites des promesses et que vous n'êtes pas en capacité de les tenir, nous, ce que l'on veut, encore une fois, c'est jouer les matchs. Voilà, avec ces valeurs très fortes de combat, d'engagement, de solidarité. Voilà, mais la lutte va être difficile. On va avoir des concurrents qui sont armés, qui sont performants. On a gagné le premier match. Okay, il y a celui de Nantes qui se profile, qui va être difficile contre un très bon adversaire qui est européen. Et ensuite, simplement, on passera au match d'après.
Olivier Létan, le président de Lille, l'intégralité de cet entretien sera diffusée donc dans RTL Foot. Et puis à 18h30, nous connaîtrons la liste des nommés pour le Ballon d'Or, cérémonie prévue le 17 octobre, avec comme favori un certain Karim Benzema. Pensez-vous que cette fois, ce Ballon d'Or est pour lui, il ne peut absolument pas lui échapper? Vous êtes déjà très nombreux à réagir au standard de 32-10. On attend vos appels. Dans un instant, ce n'est pas footballeur comme métier qu'Alexandre de Saint-Aignan a choisi pour RTL en immersion, mais artificier.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. RTL en immersion.
C'est l'un de vos rendez-vous de l'été, les journalistes de RTL qui testent un métier le temps d'une journée. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alexandre de Saint-Aignan qui a testé pour nous, s'il vous plaît, le métier d'artificier.
Oui, là, ce que vous entendez, c'est le résultat. Mais d'abord, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Tout a commencé un samedi matin, quelque part dans le nord de Paris. J'ai failli me faire attaquer par quelques oies, mais ça y est, je suis devant cette abbaye de Royaumont, ancien monastère cistercien qui date du XIIIe siècle. Bâtiment de pierre avec quelques vitraux gothiques. Ce soir, il va y avoir un mariage et c'est là qu'avec Marie et Gérald, on va tirer mon tout premier feu d'artifice.
J'ai vu que vous aviez sorti plein de cartons avec des grosses étiquettes orange.
Oui, c'est nos étiquettes pour dire que c'est de l'explosif.
Marie, c'est l'artificier en chef, alors que Gérald, lui, il tire des feux d'artifice sur son temps libre.
Je suis juriste et du coup je suis artificier effectivement sur mes week-ends et mes vacances, voilà, quand on a besoin de moi.
J'aime beaucoup les feux d'artifice, vous pensez que ça suffit pour devenir artificier ?
Alors c'est déjà une bonne base. Après il faut aimer bricoler, enfin voilà, servir de sa main, et puis voilà, c'est des longues journées.
Vous voulez que je vous donne un coup de main ? Je vais prendre un petit couteau et puis je vais commencer à ouvrir la carte. Si j'ai le droit. Hein.
On va dire que bah, aujourd'hui vous êtes en formation. Alors moi je suis la journaliste et vous faites l'artificier.
Allez, super.
Et une fois qu'on a sorti les fusées des cartons, ça y est, on peut mettre le feu aux poudres ?
Alors non, il reste encore à les mettre en place sur le champ de tir. Toute la zone a d'ailleurs été balisée pour en interdire l'accès.
En fait, un artificier, il est responsable de son champ de tir intégralement. C'est-à-dire même un pompier, même un gendarme, même un policier ne peut pas rentrer sur le champ de tir sans que l'artificier ait donné son accord.
Pas question de plaisanter avec la sécurité. On suit le plan à la lettre pour installer les explosifs et on relie tout ça jusqu'à la table de tir.
Là, c'est le moment où on a l'impression d'être dans un western, là où on tire les bobines de fil.
C'est ça, pour aller péter la mine dans le western, complètement.
Vous croyez que j'aurais le droit, moi, d'appuyer sur le bouton pour tirer le feu d'artifice ?
Ah, pas celui-là. Ça
pas celui-là,
pas
c'est
pas
vrai
possible.
Ah bon, dommage.
Non, parce que celui-là, on est en tir manuel. Et on va être au chrono et puis Gérald est formé, donc c'est Gérald qui doit le faire.
Bon, je me contenterai de vous regarder alors.
Voilà.
C'est déjà pas mal.
De profiter du spectacle. Donc pour tester si t'as tous tes récepteurs, il faut que tu mettes les deux en on. Donc là on appuie pas là-dessus sinon on fait partir.
D'accord, donc j'appuie juste sur mon boîtier.
Là tu vois ta jauge elle monte. On est quasiment à 30, on est bon.
Ça y est, le test est bon, tout est prêt pour le feu d'artifice ?
Oui, il est 23h passé, le public est en place, alors je vais baisser la voix pour pas déconcentrer Marie et Gérald. Allez, c'est parti.
Il y a du rouge qui illumine le ciel, c'est magnifique. Franchement, c'est tellement beau, j'ai des larmes aux yeux, c'est incroyable.
La journée a été longue face à mon tout premier feu d'artifice. L'émotion m'envahit avant même le bouquet final. 5 minutes chrono pour mon tout premier feu d'artifice. Et puis les mariés débarquent à la fin, tout sourire.
Bonsoir.
Je vous remercie.
Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Félicitations.
Merci. Oui, c'était vraiment magnifique.
Ça vous a plu ?
Oui, c'était super.
Ouais.
Vraiment génial.
Ah ben bravo, hein, tout le monde est content, pas de fausses notes. Et vous, Alexandre, ça vous a plu ?
Ah oui, franchement, ça m'a plu. Bon, faut quand même dire que c'est beaucoup de préparation. Ça dure de longues heures pour seulement quelques minutes de bonheur, mais quand même, hein, j'avais l'impression d'être comme un gamin avec les yeux qui brillent. Ça a réveillé en moi plein d'émotions. Hein. Alors, pour être artificier, il faut d'abord être patient, il faut être très organisé, il faut être surtout passionné, hein, puisque côté rémunération, compter entre 150 et 180 euros la journée... C'est un travail qui est très précaire. La plupart des artificiers, ils font autre chose à côté, comme Gérald, qui est donc juriste dans la vie de tous les jours et qui fait ça occasionnellement. Bon, en tout cas, je crois qu'ils ont bien senti que ça m'avait plu. D'ailleurs, le directeur de l'entreprise Fêtes et Feux, qui organisait mon tout premier feu d'artifice, m'a contacté juste après pour me proposer de travailler pour eux. Oui, sur une date en particulier. Alors, j'étais pas disponible, mais franchement, honnêtement, j'ai hésité.
Oh là là, il va falloir qu'on déploie d'imagination et qu'on arrive à trouver des arguments pour vous convaincre de rester avec nous, Alexandre. Merci beaucoup, RTL. En immersion, c'est à écouter, bien évidemment, sur notre site rtl.fr et l'appli RTL. Tous les épisodes sont disponibles. À tout de suite.
RTL Midi.